ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises.
J'espère que vous avez apprécié combien je suis fort. J'arrive à m'accombler dans mes propres annonces, mais j'arrive aussi à faire trébucher les autres. Ça, c'est quand même fort. Parlez-moi d'amour, c'est le titre d'une chanson d'une certaine Lucienne Boyer. J'imagine qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir entendue. Moi-même, j'ai écouté pour l'avoir entendue, mais ça date des années 40. Mais c'est une chanson célèbre, bon, le titre aussi, il est accrocheur, mais cette chanson a été traduite en 37 langues, elle a fait le tour du monde à l'époque, et chaque fois qu'on pensait à Lucienne Boyer, on pensait à cette chanson qu'elle avait. Mais au point où, à un moment donné, elle s'est dit, mais je suis enfermé dans cette chanson, chaque fois qu'on m'invite, c'est cette chanson qu'on veut entendre, c'est à ça qu'on pense quand on pense à moi. Et elle a demandé à un auteur de composer une chanson qui s'intitule « Parlez-moi d'autre chose ». Parlez-moi d'autre chose. Elle voulait tourner la page, parler d'autre chose. Mais l'ironie de la chanson « Parlez-moi d'autre chose », c'est que on y parle d'amour aussi. On y parle quand même d'amour. Et c'est un peu pareil ici avec la lettre aux Romains. On a vu dans cette deuxième partie de la lettre, alors qu'il parle de ces compassions de Dieu qui doivent nous inviter à des changements, qui nous dit à quoi ces changements ressemblent, un des éléments phares, c'est quoi ? Ben, c'est l'amour. Vous vous souvenez, dans le chapitre 12, que l'amour soit sans hypocrisie, par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres, et rivalisez d'estime réciproque, ou encore, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Et dimanche dernier, on a vu comment l'apôtre Paul a eu un temps où il parle de la soumission, du respect dû aux autorités, de la manière de vivre vis-à-vis des autorités. Mais ici, c'est reparti. Au chapitre 13, verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Verset 10, « L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Parlez-moi d'amour, c'est fait. Parlez-moi d'autre chose. Eh ben, on va reparler de l'amour, après avoir parlé de la soumission aux autorités. Est-ce que l'apôtre Paul tourne en rond ? Est-ce qu'il revient en boucle sur le même sujet encore ? On ne parle pas ici d'un amour romantique, mais d'un amour pour le prochain. Est-ce qu'il tourne en circuit fermé ? Pourquoi est-ce qu'il revient sur l'amour ? Qu'est-ce qu'il dit ici qu'il n'a pas dit déjà ailleurs ? Alors on va essayer de comprendre l'intérêt de ce passage ici. Mais il faut reconnaître que chacun d'entre nous ici, on est constamment face à un défi, le défi de l'amour. Qui d'entre nous est venu ce soir sans avoir eu une tension dans la semaine, une relation difficile ? Qui d'entre vous est venu ce soir sans avoir eu une personne qui l'a offensé et qu'il va falloir aimer par des gestes, par des attitudes ? Qui d'entre nous ne se pose pas à un moment ou à un autre la question « Mais comment je vais faire avec telle personne ? Comment je vais aimer telle personne ?» L'amour, c'est un défi permanent. Et ici, on va donc à nouveau parler d'amour. Un amour sans fin, dans les versets 8 à 10, avec une conscience de la fin, versets 11 à 14. Alors ça peut paraître contradictoire, un amour sans fin, avec une conscience de la fin, mais on verra que l'amour est appelé à durer, et ce n'est pas une contradiction. Un amour sans fin d'abord. Quant à la place de ce passage dans le développement de l'apôtre Paul, ça peut être utile de voir qu'au chapitre 12, verset 20, il a parlé de l'amour pour ses ennemis, et ici, 13, verset 9, il va parler de l'amour pour le prochain. Et il y a eu entre deux cette soumission, cette exhortation à se soumettre aux autorités, à respecter les autorités. Et on peut se demander même si ce n'est pas une autre façon d'aimer, aimer les autorités, c'est-à-dire se soumettre à elles sans tout approuver, mais leur accorder un certain respect. Mais pourquoi, enfin, plutôt comment est-ce qu'il fait la transition entre ce respect aux autorités et cet amour pour le prochain? Comment est-ce qu'il fait la transition? Le pivot entre les deux, c'est l'image de la dette. Au verset 7, il avait dit « Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, etc. » Et il poursuit ici au verset 8 en disant « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » La dette, c'est le lien entre les deux passages. Mais qu'est-ce qu'il entend par « ne devez rien à personne » ? Est-ce que ça veut dire que vous ne devriez jamais emprunter quoi que ce soit, à qui que ce soit ? N'empruntez pas de vélo, n'empruntez pas de DVD. Et d'ailleurs, si vous devez acheter un appartement, il va falloir payer cash, mettre une valise sur la table et payer en un coup. Est-ce que c'est ça que l'apôtre Paul veut dire par « ne devez rien à personne » ? Déjà, ça serait une contradiction avec ce qu'il vient de dire au sujet des impôts. On doit des impôts à l'État. Et d'ailleurs, pour le deuxième rappel, Mathieu l'avait déjà fait dimanche dernier, il y aura des impôts bientôt à payer. On va payer pour 2016, une taxe d'habitation ou autre. Ne devez rien à personne, ce n'est pas ne pas avoir de dette du tout, mais plutôt s'acquitter de ses dettes, payer ce que l'on doit si on a emprunté. L'idée d'être responsable aussi, l'idée autant que possible, et parfois c'est vrai qu'on peut être dans des situations difficiles où on a besoin d'aide, mais il nous faut être responsable, ne pas vivre au-dessus de nos moyens, dans un train de vie qui nous dépasse. Et l'apôtre Paul contraste cette dette-là avec une autre dette, la dette de l'amour. La dette de l'amour. On doit s'acquitter de nos dettes, mais il y a une dette qu'on n'arrivera jamais à totalement payer, c'est l'amour. Si vous devez 50 euros à quelqu'un, si vous rendez ces 50 euros, la dette disparaît, c'est fini. Si vous devez 100 000 euros à la banque pour un emprunt, vous remboursez cette somme, votre dette disparaît. Mais vous n'allez pas aller vers quelqu'un en lui disant « c'est bon, au niveau de l'amour, moi j'ai assez donné avec toi, hein. j'ai fait mon quota, je t'ai assez aimé ». Non, l'amour, c'est une dette qui précisément n'a pas de fin, une dette sans fin. Et il prolonge en disant de cette dette, au verset 8 toujours, « Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Et là, on peut se demander pourquoi l'apôtre Paul parle de la loi. On a déjà dit, il a parlé d'amour et il reparle de l'amour, mais il a parlé de la loi dans sa lettre au chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Et ici, il reparle de la loi. Pourquoi est-ce qu'il reparle de la loi ici? Un premier élément de réponse, c'est qu'il a parmi ses lecteurs, ses auditeurs, des chrétiens d'origine juive. On l'a vu à différents endroits dans sa lettre. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un juif qui l'écoute parler de la seule dette qu'on doit aux autres, c'est de les aimer? Peut-être que naturellement, la question qui se pose pour un juif, c'est « mais il y a quand même d'autres choses que l'on doit aux autres ». Et les 10 commandements ? Et les 10 commandements ? Est-ce qu'on n'a pas ce devoir-là vis-à-vis de notre prochain ? Et c'est, semble-t-il, la raison pour laquelle Paul cite quelques commandements au verset 9. « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. » Mais Paul poursuit en affirmant que tout se résume par cet amour pour le prochain. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Pourquoi est-ce qu'il dit ça ?
Est-ce que ça signifie, et je vais d'abord dire ce que ce n'est pas, j'espère démontrer que ce n'est pas ça, mais est-ce que ça signifie qu'il est en train de nous dire, vous savez, en fait, il vous faut avoir un amour, un sentiment intérieur qui vous guide dans tout ce que vous faites et qui vous dit ce qui est bien, ce qui est mal. Une sorte de sentiment, émotion, quelqu'un qui dit, c'est ça que je ressens, c'est ça que je dois faire. Peut-être quelqu'un qui vous dit, il faut que je suive mon cœur, il faut que je suive mes sentiments. Est-ce que c'est ça que l'apôtre Paul veut dire ? L'amour, c'est mon seul véritable guide, c'est seul à qui je peux faire confiance pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Est-ce que c'est ça que l'apôtre Paul veut dire ? Ben non, c'est probablement pas ça, et certainement pas en fait, ça qu'il dit ici, c'est même tordre le sens. Ça fait un peu penser à la manière dont on a tordu une citation de Blaise Pascal. Blaise Pascal, vous l'avez certainement déjà entendu, a écrit « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. De quoi est-ce que Blaise Pascal parle ? Eh bien, il parle de la croyance en Dieu. Il affirme que la raison, comme seule source de connaissance, n'est pas suffisante pour connaître Dieu. Il va falloir un pas, il va falloir la foi. Autrement dit, le cœur qui s'engage. Mais comment est-ce que cette citation est régulièrement utilisée ? Comment est-ce que vous l'avez entendue ? Assez régulièrement, et je vais prendre un exemple, on le prend comme un cœur siège de nos émotions, de nos sentiments qui nous dirigent. Là où la raison ne peut paraît illogique, ou pour elle, semble illogique. Prenez par exemple le site Glidden, un site de rencontres extra-conjugales. Autrement dit, de rencontres de personnes qui sont mariées, mais qui veulent avoir une aventure avec quelqu'un d'autre. Écoutez leur utilisation de la citation de Pascal. « Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le cœur, ce mystère qui dicte nos vies, ce cœur qui impulse une diversité d'émotions parfois paradoxales. » Le cœur, comme si... Ouais, on est marié, on s'est engagé vis-à-vis de quelqu'un, mais il est parfois paradoxal ce cœur, il est mystérieux, il peut vouloir une autre relation. Mais j'espère que vous voyez que c'est complètement tordre le sens de la phrase de Pascal et complètement tordre le sens de ce que Paul veut dire ici. Ici, Paul dit précisément que le commandement « tu ne commettras pas d'adultère » est résumé dans l'amour. Il dira ensuite que l'amour ne fait pas de mal au prochain. Est-ce qu'on peut vraiment dire que quand on trompe quelqu'un, on est en train de l'aimer ? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on ne lui fait pas de mal ? Pareil pour le meurtre, est-ce qu'on aurait l'audace de dire qu'on peut tuer quelqu'un par amour ? Ça ne viendrait même pas à l'idée. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut voler quelqu'un par amour ? Ou est-ce qu'on va convoiter quelqu'un ? Et là, peut-être vous dites, oh, c'est pas si mal convoiter. Mais c'est la chose qu'on veut. On n'arrive même pas à se réjouir de ce que l'autre a. On le convoite, on le veut pour soi. Non, c'est pas par amour qu'on fait ça. Mais il faut revenir à la question qu'on s'est posée. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul résume toute la loi par cet amour pour le prochain, par le commandement d'aimer ? Ben d'une part, on pourrait dire qu'il est dans la lignée de ce que Jésus a fait. Quand on a demandé à Jésus, par exemple dans Marc 12, de résumer toute la loi, il le résume par deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Et ton prochain comme toi-même, le deuxième. Il arrive à résumer toute la loi par ces deux commandements. Et l'apôtre Paul s'inscrit dans cette lignée-là aussi. Mais il y a peut-être autre chose. Comment est-ce que les Romains doivent voir cette deuxième partie de la lettre ? Cette deuxième partie de la lettre où il y a tous ces impératifs, toutes ces exhortations et, il faut le dire, des commandements. Comment est-ce qu'ils doivent les lire ? Est-ce qu'ils doivent, en tant que juifs, les lire de cette façon ? J'ai été pardonné, j'ai été justifié par la foi en Jésus et maintenant il va falloir que j'obéisse à la loi pour achever mon salut. Est-ce que c'est comme ça qu'ils doivent lire cette deuxième partie de la lettre ? Ou alors est-ce qu'ils doivent le lire « Je suis pardonné, j'ai été justifié gratuitement par la foi en Jésus et je vais aimer en réponse à son amour. » Car l'amour est l'accomplissement de la loi. Ben, c'est plutôt le deuxième. Paul a passé une grande partie de sa lettre à montrer que personne n'arrive à vivre selon la loi, que personne ne sera justifié par l'obéissance à la loi, personne n'y arrivera. Ici, il semble encore vouloir éviter une erreur qu'on retrouve ailleurs, par exemple chez les Galates, qui eux aussi se posaient la question, « D'accord, Jésus est mort pour nous, mais il va falloir quand même obéir à la loi, non ? Il va falloir obéir aux commandements pour être sauvé. » Et là, en résumant, en disant que l'amour est l'accomplissement de la loi, je suggère que l'apôtre Paul évite ce piège qui consiste à penser qu'on a été pardonné par Christ, mais qu'il va falloir aussi obéir à la loi pour être sûr qu'on est sauvé. Pour reprendre les paroles de Jean, par exemple, en pensant à la motivation que l'apôtre Paul a donnée au début du chapitre 12, on pourrait dire, mais nous nous aimons parce que lui nous a aimé le premier. Nous nous aimons parce que lui nous a aimé le premier. Cet amour qui résume toute la loi, qui résume tout ce qu'on a à faire, eh ben c'est en réponse à son amour. Et peut-être pour essayer de réfléchir à la difficulté qu'on a de vivre selon cet amour-là, de l'avoir présent à l'esprit, on peut se poser quelques petites questions. Une question qu'on pourrait se poser, c'est « Quand je pense à ces commandements, tu ne convoiteras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. » Est-ce que je pense simplement en référence à moi-même ou est-ce que je pense aux personnes que j'ai en face de moi ? Est-ce que je suis simplement en train de réfléchir sur un plan personnel, mais sans aucun amour pour les personnes en face ? Est-ce que je suis simplement intéressé par le fait de pouvoir cocher toutes les cases ? J'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai pas commis d'adultère. Ou est-ce que je réalise que l'amour doit être l'intention dans tout ce que je fais ? L'amour pour Dieu, l'amour pour mon prochain. Quand je pense à ces commandements, est-ce que j'ai tendance à vouloir me rassurer par mon positionnement en me disant « j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Ouf !» Ou est-ce que je me souviens que j'ai été justifié par Jésus, par la foi en Jésus ? Et grâce à cela, je peux vivre cet amour pour Dieu et pour les autres, libéré, décentré de moi-même. Parce que c'est bien ça le problème. On est toujours centré sur soi-même. Et moi-même, en notant ces questions, pour chacune, je suis repris. Pour chacune, il y a cette tendance à vouloir cocher des cases ou se dire que je ne suis pas si mal que ça. Ou alors d'être centré sur ce que je fais plutôt que sur le fait d'aimer mon prochain. Au chapitre 12, l'apôtre Paul basait la motivation sur le passé, sur le fait que Dieu avait montré la compassion dans le passé. Et ce qu'il fait ici, au verset 11, et ça sera notre deuxième partie, il donne une motivation qui est liée à l'avenir, vivre conscient de la fin. Et il faut reconnaître, en tant que parisien, que l'apôtre Paul, il a le don pour toucher les cordes sensibles quand même. C'est vrai, avec les loyers qu'on a à payer en région parisienne, quand il dit que personne ne doit rien, enfin que vous ne devez rien à personne, si vous êtes dans une location, vous savez qu'il va falloir payer un loyer. Si vous avez acquis un bien, il y a un remboursement d'emprunt, il va falloir le payer. Et vous devez la dette de l'amour, un amour sans fin. Première corde sensible. Mais la deuxième chose qu'on peut dire des Parisiens aussi, c'est le stress. C'est le stress, quand vous demandez à quelqu'un de la province de décrire les Parisiens, c'est le stress qui les caractérise. Le fait qu'on est toujours stressé en conduisant. Vous connaissez peut-être le sketch de Danny Boone quand il conduit, quand il ne peut pas fermer les yeux au feu parce qu'il doit démarrer tout de suite. Au travail, dans les transports, on est stressé. Et bien ici, l'apôtre Paul, il en rajoute par trois fois, il va faire une référence au temps en disant « Attention, le temps dans lequel on est. » Verset 11, il dit « Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Il y a ça, il parle d'un salut au verset 11 toujours. « Plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. » Deuxième référence au temps. Troisième référence au temps, il se trouve au verset 12, « La nuit est bien avancée, le jour approche. » Il fait référence à quoi par ces notions du temps ? Eh bien, l'apôtre Paul parle de la fin, de l'espérance des croyants, d'un jour dans l'histoire, d'un moment dans l'histoire où Jésus interviendra, établira, comme il est dit, comme la Bible en parle, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et par l'image du jour et de la nuit, il rappelle une image qui est déjà présente ailleurs dans la Bible et qui nous invite à nous préparer à cette nouvelle réalité. On voit par exemple que chez Jean, une manière de décrire le monde, c'est de le décrire comme des ténèbres qui sont partout, des ténèbres qui caractérisent l'humanité qui a tourné le dos à Dieu et qui vit pour elle-même, par elle-même. Ténèbres, ça décrit bien aussi le fait qu'on essaie de cacher certaines choses à Dieu, qu'on veut pas qu'il dévoile. Mais dans l'histoire, Jésus est venu et il est décrit comme la lumière qui a brillé dans les ténèbres. Et de même, le salut final, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu à la fin de l'histoire, c'est décrit comme un jour, comme une lumière, ici dans ce texte. D'où l'image du réveil, d'où l'invitation à réaliser que ce jour approche. Mais qu'est-ce qu'on doit faire en sachant ça ? Alors, il a mis trois références à des notions de temps, un temps qui est court, d'un temps qui est proche, d'un temps resserré. Et bien, il donne trois impératifs dans les versets 12 à 13, où il indique par ses appels, par ses impératifs, ce qu'il faut faire. On les regarde rapidement, verset 12. « Débarrassons-nous donc des œuvres, des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. » Verset 13, « Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie, ivonnerie, etc. » Verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. » Il y a l'image ici d'un vêtement dont on se débarrasse et d'un autre vêtement dont on se recouvre. Le vêtement ici, c'est un peu la manière de parler de ce qui nous caractérise, qui fait un peu notre identité, qui dit ce qu'on est. Mais notez que dans les choses qu'il liste, ce sont des choses que précisément on aurait plutôt tendance à faire la nuit, orgie, ivronnerie, immoralité, débauche. De ces choses-là, on est invité à se dévêtir. Il ajoute aussi des choses qui concernent tout particulièrement les Romains. Sans dispute ni jalousie, on va voir dans les chapitres 14 et 15 qu'il y a des tensions. Mais il ne s'agit pas simplement de se débarrasser de certaines habitudes, certaines choses qui sont incorrectes avec la lumière. Il faut aussi se revêtir des armes de la lumière. Et notez que ce n'est pas une simple robe de chambre qu'on met le matin pour vivre la journée. Des armes de la lumière. Autrement dit, il y a la réalité d'un combat aussi, de quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Il parle ensuite de se revêtir du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. On peut peut-être l'illustrer par l'histoire de ce jeune homme qui vivait dans un questionnement au sujet du bien et du mal, qui se posait ces questions et qui s'est intéressé à différentes philosophies. Sa mère était croyante, et elle prie régulièrement pour lui, pour qu'il se tourne vers Jésus, dans la foi en lui. De passage à Milan, il va être touché par l'enseignement d'un certain Ambroise, et c'est semble-t-il là qu'il a saisi l'évangile, mais il continue à être tiraillé en lui-même. S'il a cru ce message, il n'a pas renoncé à son style de vie, qui est incohérent avec l'Évangile, et en particulier sur le plan sexuel. Il continue d'être régulièrement interpellé sur la question du bien et du mal, mais il estime qu'il doit combattre sur la base de ses efforts, de sa capacité. Et alors qu'il se trouve dans le jardin d'un ami, qui réfléchit à sa vie, il entend des enfants qui jouent à côté, et l'un des enfants répète ses paroles, « Prends Élie, prends Élie, prends Élie. » Prends ses paroles comme une parole que Dieu lui adresse. Et il saisit le Nouveau Testament qui est devant lui pour y lire ses paroles. Romains 13, versets 13 et 14, « Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ivronnerie, immoralité, débauche, sans dispute ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. » Un appel direct à renoncer à son incohérence par rapport à ce qu'il a cru. Mais aussi, par cette expression « revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ », il réalise que ce n'est pas par une série de règles, de lois, qu'il doit se débarrasser de cette ancienne manière de vivre. Comme le dit un commentateur, revêtir Christ, c'est non seulement se couvrir de sa justice, mais c'est d'être surtout attaché à lui, couvert de lui, au point d'être renouvelé dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de vivre, inspiré par lui dans notre marche. Marcher dans ses traces, poussé par son esprit, conscient qu'on est dépendant de lui. Ce jeune homme, certains l'auront peut-être reconnu, c'est Augustin d'Hippo, qui a vécu à la fin du IVe siècle, qui est devenu un des plus grands théologiens de l'histoire, et qui a pu réaliser la nécessité d'une cohérence avec ce que Christ avait fait pour lui. L'amour, c'est un excellent résumé de la loi, son parfait accomplissement. L'amour évite le piège qui consiste à vouloir obéir pour être justifié. L'amour est en fait une réponse à son amour. L'amour, c'est une dette sans fin, mais qui se vit en étant conscient de la fin. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, tu connais tous les domaines où nous-mêmes nous avons cette incohérence, nous-mêmes où nous avons de la peine à aimer, de la peine à vivre dans les traces de Jésus. Donne-nous de nous revêtir de Jésus-Christ, d'être inspirés par lui en sachant qu'il nous a non seulement couverts de sa justice et donc libérés de la peur, de la crainte du jugement, mais qu'il nous permet par son esprit en nous de vivre comme il a vécu, d'être inspiré par sa vie. Et chacun ici, donne-nous, Seigneur, de vivre cet amour les uns pour les autres en étant conscients de cette fin. Te le prie au nom de Jésus. Amen.